Bonjour et bienvenue à nos auditeurs, vous êtes sur Culture Flip. C'est aujourd'hui votre animateur Antoine qui vous présente cette émission. Culture Flip, c'est votre rendez-vous culturel à 360 degrés. Nous enregistrons cette émission exclusivement à distance, bien entendu pour des raisons sanitaires. Culture Flip, votre émission enregistrée par des étudiants DUT GACO, gestion administrative et commerciale des organisations, de l'IUT du littoral Côte d'Opale, a pour objectif de faire un point sur l'actualité quotidienne. Avec moi aujourd'hui, Perrine, Étienne et enfin Manon. Pour commencer cette émission, nous aurons Perrine qui abordera le thème des adaptations cinématographiques. Dans un deuxième temps, Étienne nous montrera les influences de la musique sur le comportement. Et puis enfin, Manon nous fera part des enjeux et des limites de la dénonciation.
Bonjour à tous. Saviez-vous que le dernier livre de la saga Hunger Games, écrit par Suzanne Collins, était sorti pendant le confinement? Une nouvelle qui a bien sûr ravi les fans de la saga. D'autant plus que ce livre a été sorti en un temps record, à peine 3 mois. Mais il y a une autre nouvelle qui risque de ravir d'autant plus le public. En effet, les fans vont sauter de joie puisqu'une adaptation cinématographique du livre est déjà en cours. Selon Roman Parado, journaliste qui publie dans Le Parisien, une nouvelle plutôt surprenante quand on constate que le livre est sorti il y a à peine 6 mois. Une adaptation qui semble anticipée pour certains, surtout en cette période difficile où le livre n'a même pas encore eu le temps de faire ses preuves. En tout cas, cette décision anticipée semble synonyme de succès. On peut considérer tout cela comme une chance pour l'écrivaine Suzanne Collins, puisque, en plus de l'argent que cela rapporte à l'autrice, cela apporte aussi une visibilité énorme. Nous avons même pu le constater parmi nous. L'un d'entre vous a-t-il lu, voire acheté l'un des romans Hunger Games?
Non, Perrine.
Pourtant, je suis sûre qu'au moins la moitié d'entre nous a vu le film et même, par la même occasion, connaît l'auteur Suzanne Collins.
Oui, j'ai personnellement vu le film et j'ai effectivement entendu parler des romans.
Ce qui prouve bien que ces adaptations offrent une réelle visibilité à l'écrivain et à sa saga. Même si l'on constate ici que l'adaptation cinématographique profite à l'américaine, elle ne fait pas forcément envier tout le monde. En effet, l'écrivain n'a pas toujours sa place dans ses adaptations et n'en est pas toujours satisfait. D'ailleurs, je me souviens de l'article « De l'écrit à l'écran » rédigé par Catherine Ball et publié sur Europress qui parle très bien de cette situation. Elle prenait comme exemple Hugo Boris, l'auteur de Police, qui avait 3 choix lors de l'adaptation de son roman. L'un d'entre vous a-t-il une idée de quelles peuvent être justement les options de l'écrivain?
L'écrivain doit sûrement avoir le choix de faire apparaître ou non son nom sur le long métrage.
Eh bien oui, en effet. L'auteur peut soit choisir de mettre son nom au générique, soit il peut demander qu'il soit précisé que le film a été librement adapté, ou alors, si vraiment il souhaite se désolidariser du film, il peut exiger qu'il n'y ait pas de référence au livre. Par exemple, l'auteur peut choisir d'être consultant, voire co-scénariste du film. Il est donc au plus près pour s'assurer que le film reste fidèle à ses idées et ses attentes. Une démarche qu'a par exemple utilisé Thierry Copé, l'auteur de la BD Les Blagues de Toto. Il faut avouer qu'être co-scénariste a également un attrait financier. Anne Lorquer, autrice de La Daronne, a perçu 60 000 euros en plus des droits d'ouvrage pour sa participation à la réalisation du film. Nous savons tous qu'il existe toujours des différences entre livre et film, notamment par souci de temps. En effet, si chaque film était totalement fidèle au livre, il durerait des heures et ne captiverait pas grand monde. On constate que certains choix des scénaristes ont parfois déçu les fans du livre. En effet, même si certaines différences peuvent sembler minimes, le lecteur peut y être particulièrement attaché. C'est notamment ce qui a pu se passer pour la célèbre saga d'El James, comme le souligne Europress dans son article rédigé par Clément Maeto. De nombreux fans des romans se sont amusés à chercher les différences entre le livre et l'adaptation, où certains choix du scénariste semblent les avoir déçus. Comme par exemple le fait qu'Ethan, le frère de Kate, n'est pas représenté dans le film. Il souligne également la présence du personnage de Layla, qui refait son apparition dans le livre durant de longs passages, alors qu'elle est simplement évoquée dans le film. On constate donc que l'écrivain occupe parfois une place complexe ou non au cœur du processus d'adaptation. Un rôle qui semble parfois difficile à l'écrivain de concilier entre les avantages financiers et de visibilité qu'apporte un film, mais aussi les attentes du public, la place que l'auteur veut se donner à la réalisation, mais aussi la possibilité de déception de ses fans. Même si rappelons que dans la majorité des cas, les adaptations cinématographiques tirées de best-sellers font des cartons. D'ailleurs, d'autres grandes industries semblent s'intéresser à ce modèle, tel que Sony, qui annonçait l'année dernière vouloir créer un studio baptisé PlayStation Production, un studio spécialement dédié à l'adaptation de ses licences de jeux en film ou série.
Bien, merci à toi Perrine. Nous pouvons maintenant laisser la place à Etienne avec un sujet qui peut tout à fait vous intéresser, c'est-à-dire quels peuvent être les effets de la musique sur nous-mêmes. Bonjour Etienne, merci d'être parmi nous. Vous allez maintenant nous parler de l'influence de la musique sur le comportement humain.
Bonjour à tous, tout à fait. Je vais aujourd'hui vous parler des multiples manières dont la musique influence le comportement humain qui lui sont plus ou moins bénéfiques. Celle-ci peut amener de meilleurs résultats pour un sportif. Elle peut aussi aider un jeune au niveau du bégaiement et des troubles 10 ou encore elle peut détendre l'humain et lui faire oublier les problèmes ou ennuis du quotidien. On se rend compte que la musique a de très nombreux effets sur le corps et le mental d'un être humain qui peuvent modifier son comportement dans la vie de tous les jours. Vous avez sûrement remarqué une fois dans votre vie que la musique vous a motivé dans un effort sportif. En effet, la musique, avec un rythme assez rapide, provoque un sentiment plaisant, excitant, évoquant la joie, le bonheur, la vitalité, l'impétuosité, voire même l'affolement. A contrario, une musique avec un rythme assez lent aura un effet calmant, reposant ou encore de nostalgie. De nos jours, de nombreux athlètes s'entraînent avec de la musique pour améliorer plus rapidement leurs acquis moteurs et leur dextérité. Bref, on peut dire qu'une musique stimulante et motivante, avec un rythme assez élevé, et source de dépassement des limites de progrès sportif plus rapide. Je vais maintenant me tourner vers Antoine. Avez-vous déjà ressenti cet effet de motivation lors d'une séance de sport avec de la musique?
Oui, je ressens cet effet de motivation qui fait que je me dépasse davantage lors d'un effort sportif.
Merci Antoine pour cette intervention. Pour appuyer la réponse d'Antoine, j'ai trouvé une étude qui prouve qu'un effort effectué avec de la musique est 10% plus facile que lorsqu'il est accompli sans musique, ce qui est assez surprenant tout de même. La musique a tout de même des limites. Celle-ci peut engendrer une moins bonne écoute de son corps, c'est-à-dire aller au-delà des capacités de ce que le corps peut subir, provoquant le risque de blessure. Concernant les jeunes ayant des troubles 10 et un problème de bégaiement, la musique peut avoir un certain rôle bénéfique pour eux. Tout d'abord, les chansons et les comptines aident l'enfant à développer son langage, sa capacité d'attention, son sens rythmique et sa mémoire. Elle peut y contribuer très positivement. Il ne s'agit pas de mettre des écouteurs aux oreilles et de laisser le jeune ou la personne écouter, mais il faut une personne pour l'accompagner dans son écoute. Lui apprendre à écouter en commençant par s'écouter lui-même. C'est-à-dire qu'il doit attirer l'attention sur les différents paramètres comme le rythme, la mélodie, la reconnaissance des instruments, les paroles ou encore la voix. Pour l'aider à résoudre ses problèmes, il faut aussi varier les écoutes, donc les genres musicaux, varier les instruments à reconnaître et à manipuler. Pour Isabelle Pérez, chercheuse québécoise spécialisée dans l'étude du cerveau musical, affirme que le rythme de la musique aide les jeunes atteints de troubles 10 à comprendre le sens de la musique. De plus, d'après elle, faire ou apprendre de la musique favorise les fonctions exécutives comme la mémoire, la concentration, l'apprentissage d'une langue étrangère, la lecture et d'autres encore. Enfin, quel que soit l'humain, la musique a des effets négatifs s'il y a trop d'abus. En effet, 90% des jeunes déclarent écouter de la musique à un volume fort ou moyen. Ceci se répercute avec des problèmes sur le corps humain. De ce fait, plus de 77% des adolescents déclarent avoir déjà ressenti des effets négatifs sur leur santé suite à une exposition sonore. Pourtant, seuls 17% des adolescents en ont déjà parlé à un professionnel de santé. Cela nous montre que de très nombreux jeunes perçoivent des modifications dans leur audition, mais ne l'identifient pas forcément comme un problème de santé. Ce qui est le plus marquant, c'est qu'après l'âge de 18 ans, quasiment chaque être humain déclare avoir ressenti des effets négatifs sur leur audition. Je vais encore une fois me tourner vers Antoine. Avez-vous déjà ressenti des effets négatifs sur l'audition à cause d'une exposition sonore trop élevée?
Eh bien, oui, bien sûr, j'ai ressenti plusieurs fois des effets négatifs à cause d'une trop forte exposition sonore, notamment débordement.
D'accord, merci Antoine pour votre participation. Ceci résume donc bien ce qui a été cité juste avant. Voilà, Nous avons terminé avec ce sujet. Nous retiendrons que la musique a des effets bénéfiques sur la personne au niveau sportif, intellectuel et mental. Néanmoins, il ne faut pas négliger ses limites qui peuvent provoquer certaines conséquences qui sont néfastes pour l'homme.
Merci à toi, Étienne. Enfin, laissons la place à Manon qui va nous parler des enjeux et des limites de la dénonciation.
Bonjour Antoine et bonjour à tous et à toutes. Harcèlement, fait d'actualité, justice, délit, ce sont de nombreuses choses que nous pouvons dénoncer. Mais avec quoi pouvons-nous dénoncer? Je vais vous montrer qu'il y a de nombreuses façons de dénoncer. Mais il faut surtout savoir que la dénonciation entraîne de nombreux risques. Allez, c'est parti, je vais vous expliquer tout ça. Nous savons tous ce que c'est que la dénonciation, mais savez-vous qu'il existe plusieurs types de dénonciation? Je vais vous parler de quelques-unes qui m'ont assez surprise. Il y a quelques semaines, je lisais un article de Valeurs Actuelles et j'ai vu un article qui m'a totalement étonné et fait rire. En effet, au Québec, plusieurs lycéens se sont mobilisés pour dénoncer le sexisme à l'école. Pour cela, ils se sont munis de jupes et ont passé plusieurs jours comme ça. Je trouvais ça drôle mais à la fois courageux. Étienne, seriez-vous capable de vous habiller en jupe pour dénoncer le sexisme?
Oui, bien sûr, Manon.
Continuons. De nombreux livres servent à dénoncer quelque chose. Nous pouvons prendre l'exemple du livre « 12 Years a Slave » qui dénonce l'esclavage. Si vous êtes un peu fainéant, ce livre a été retranscrit en film. Je vous le conseille, c'est un très beau film. Pour terminer, je vais vous faire écouter plusieurs musiques de Stromae et vous expliquer pourquoi ce sont des musiques engagées.
Une dernière fois mon derrière, il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère.
Ici, dans Tous les Mêmes, Stromae dénonce de nombreux stéréotypes liés au sexe. Par exemple, les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. Allez, lançons le deuxième titre.
Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi.
Pour ce titre, qui est Carmen, Stromae dénonce l'importance des réseaux sociaux dans notre vie. Et ici, il prend l'exemple d'un garçon qui compte de nombreux followers sur Twitter. Malheureusement, le jour de son anniversaire, personne n'était à ses côtés, à part l'oiseau de Twitter. Ce qui accentue le fait que les réseaux sociaux sont de plus en plus importants que les vraies relations à nos jours. Allez, je lance le dernier titre.
Mais elle est décontaminée, Polo ne chantera plus ou peut-être une fois enterré, Polo.
Ici, dans le titre Moule frites, Stromae vise à dénoncer l'irresponsabilité des individus. Pour cela, il parle des maladies sexuellement transmissibles. Et pour bien accentuer cet effet d'irresponsabilité, à la fin du clip, nous pouvons voir qu'un jeune garçon décède d'une MST parce qu'il ne s'est pas protégé. J'en ai fini pour Stromae. Antoine, que pensez-vous des musiques engagées de Stromae?
Il met, comme on le voit dans ses clips, ses œuvres au service de la dénonciation.
Merci. Nous allons entamer la deuxième partie qui sont les risques de la dénonciation. Pour cela, je vais vous parler d'un article de presse qui est sorti assez récemment. Je suis sûre que vous en avez entendu parler. Si je vous dis enseignement, caricature, vous pensez à Samuel Paty, non? En effet, celui-ci a figuré dans de nombreuses revues de presse comme Europresse. Ici, nous pouvons voir que cet enseignant a parlé de caricature qui est un moyen de dénoncer et a fini décapité. Nous pouvons donc en conclure que les moyens de dénoncer peuvent nous attirer la mort malheureusement. Avez-vous déjà dénoncé quelque chose sur les réseaux sociaux? Avec ce que je vais vous dire, vous allez bien réfléchir et peser vos mots avant de publier quelque chose. D'après le vigilantisme numérique, les sanctions venant d'une dénonciation sur les réseaux sociaux peuvent avoir un caractère punitif et cela peut vous emmener très loin, comme une peine de 5 ans d'emprisonnement, mais aussi une amende de 45 000 euros. Pour cela, je vous ai trouvé un exemple sur les réseaux sociaux. Connaissez-vous le hashtag qui a fait fureur sur Twitter ? Balance ton porc, ça ne vous dit rien? Pourtant, c'est un hashtag qui a pris énormément d'ampleur. En effet, d'après le journal Lepoint.fr, la femme initiatrice de ce mouvement a été poursuivie pour diffamation par l'homme mis en cause sur son tweet. Son tweet situait les paroles de son ex-patron qui lui avait dit « Tu as de gros seins, tu es mon type de femme, je vais te faire jouir, hashtag balance ton porc ». Cette femme a juste voulu dénoncer un fait, une façon d'être, et elle se retrouve au final dans de lourdes procédures juridiques. Si cela vous intéresse, je vous conseille de lire son livre qui est « Balance ton porc ». Il est très très intéressant. Voilà Antoine, j'ai terminé avec ma chronique.
Super, pourrais-tu nous en faire une conclusion rapide?
Pour ma conclusion, je dirais que la dénonciation peut être quelque chose de bien, mais il faut bien réfléchir aux conséquences que cela pourrait nous amener. Il ne faut surtout pas faire ça sur un coup de tête. Je vous remercie de m'avoir écouté.
C'est nous qui vous remercions, Manon, pour votre intervention. Eh bien, je vous remercie, si chacun de nos chroniqueurs, mais aussi vous, nos chers auditeurs. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant que ces sujets qui vous ont été proposés vous ont plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Culture Flip pour toujours plus de culture. Bien sûr, vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.studiogaco.fr ou encore réagir sur notre Twitter Studio Gaco. Merci à vous et surtout en cette crise sanitaire, prenez soin de vous. Au revoir à tous.